Le droit est nous, dans la grande matinale avec Aliou Tal, sur Africa numéro 1.
La radio africaine, comme tous les mercredis. Le 22 avril 2018, la France a adopté une nouvelle loi sur l'immigration et l'asile. Malgré vents et marées agités à la fois par l'opposition de gauche, par la droite et même par plusieurs députés de la majorité gouvernementale, cette loi est également largement contestée par les acteurs associatifs qui défendent les étrangers en France. Le droit est nous vous propose une série de chroniques pour décortiquer cette nouvelle loi et expliquer aux auditeurs les changements qu'elle apporte sur le droit d'asile et le droit des étrangers en France. Bonjour Aliou Tal.
Bonjour Phil.
Alors ma première question, pourquoi cette nouvelle loi est si controversée ?
Je crois que c'est d'abord par rapport à son objectif. Beaucoup de députés, beaucoup d'observateurs, de journalistes et de citoyens français se posent la question de l'utilité de cette loi. Parce qu'il y a peu, en 2016, il y avait déjà une loi sur l'immigration. Entrée en vigueur le 1er novembre 2016. On en a beaucoup parlé, on a traité cette loi. Plus tard, en 2015, il y avait aussi une loi, juste avant, je veux dire, il y avait une loi sur l'asile qui a modifié le droit d'asile. On s'est dit que peut-être qu'en France, chaque gouvernement veut marquer son empreinte sur la législation des droits des étrangers. Et le problème, c'est que malheureusement, on veut marquer son empreinte dans le sens de la restriction. Et sur restriction et restriction, encore des restrictions, finalement, on se demande, est-ce qu'il y a un droit d'asile ?
Ouais.
Est-ce qu'il y a un droit des migrants ? Est-ce qu'on veut des étrangers en France ? On se dit qu'avec cette loi, on veut augmenter le nombre des décisions de reconduite aux frontières et les rendre plutôt effectives. Parce qu'avant, on demandait l'asile, il y a un rejet, on restait ici. On avait la possibilité de rester. Déjà, les procédures étaient longues et ensuite, on pouvait demander des régularisations par rapport aux voies normales qui sont prévues par la loi. Donc, je disais qu'il y avait ces deux lois précédentes, de l'immigration et de l'asile, 2016 immigration, 2015 asile, et qu'on a une nouvelle loi. On se dit, quelle est la pertinence de cette nouvelle loi ? Alors qu'en France, on a noté à peu près l'année dernière 100 000 demandeurs d'asile.
Oui.
Des pays comme l'Allemagne ont compté le double, l'Italie pareil, sans qu'il y ait besoin de marquer encore une empreinte pour dire que voilà, on est là, l'État policier est là, on va vous reconduire à la frontière. Ce qui fait que cette loi a créé beaucoup de tensions. Il y a aussi ce qu'on appelle et ce qu'on a appelé les délits de solidarité.
Oui.
Moi, à titre personnel, j'ai participé à des comités interministériels au temps du ministre Éric Besson sur le gouvernement de Nicolas Sarkozy. En ce moment, il y avait un projet de loi pour modifier les articles L622 et suivants du Code des étrangers. Il suffisait que Moussé Fil héberge chez lui son petit frère Phil Junior, qui n'a pas de titre de séjour. Phil devient délinquant et peut aller en prison. Est-ce que ce n'était pas sévère ? Alors qu'il y avait un devoir humain d'apporter soutien à son frère, à sa sœur ou à sa femme.
Exactement.
Et heureusement qu'avec les travaux qu'on avait fait, cet aspect du délit de solidarité a été levé. Maintenant, on a voulu incriminer des associations, des acteurs sociaux qui venaient en aide à des étrangers qui avaient des problèmes. Par exemple, des problèmes de santé, des gens qui avaient des problèmes pour d'hébergement. On a vu l'actualité, une femme africaine qui était sur le point d'accoucher, la personne qui a voulu l'aider pour accoucher a été incriminée. Cette loi a posé un problème à ce niveau-là. Heureusement que les acteurs associatifs ont été très dynamiques au niveau de la résistance, au niveau des manifestations et au niveau aussi de leur regard sur ce droit à travers des discussions avec le gouvernement.
Ouais.
Cette ligne de solidarité, heureusement, a été revue. Il y a eu des allègements. Il n'est plus incriminé, par exemple, pour une association, d'apporter des conseils de nature juridique, de nature en matière de santé, en matière d'hébergement, à partir du moment où il n'y a pas une contrepartie financière.
Ouais.
Seulement, au niveau judiciaire, ils sont partis dire que la contrepartie peut ne pas être financière. Ça peut être une idéologie. Ça veut dire que si vous êtes contre la loi et que vous aidez quelqu'un parce que vous êtes contre la loi, vous êtes quand même coupable.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'on appelle le camailleux juridique français. On ne sait pas quand c'est gauche, quand c'est à droite. On ne sait pas si c'est noir, si c'est blanc, mais on part du principe qu'on respecte les dispositions de la Convention de Genève sur le droit d'asile, mais on fait tout pour vider ce droit d'asile de sa quintessence, de son contenu, ce qui fait qu'il ne reste qu'une coquille vide. Voilà pourquoi cette loi est problématique.
Alors, quelles sont les conséquences de cette loi sur les droits des demandeurs d'asile à Aliou Tal ?
Alors, il faudra préciser que pour l'asile, il y a déjà des points négatifs, mais heureusement qu'il y a quelques aménagements qu'on peut considérer comme des points plus ou moins positifs, selon les attentes des uns et des autres. Je vais commencer par le mal, les points négatifs. Il y a le délai d'examen des demandes d'asile et de recours qui est réduit à 6 mois. Ça veut dire que la CNDA, comme l'OFRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile, ont en tout et pour tout 6 mois pour traiter la demande. Ils ne veulent pas que l'étranger reste longtemps ici. Ils veulent que l'étranger reste le minimum possible et en cas de refus, qu'il puisse être éloigné hors de France. Ça, c'est un premier problème. Il y a aussi le contrôle du gouvernement dans les centres d'hébergement. Si on permet à l'OFI, au gouvernement, d'avoir un accès, un regard sur les centres d'hébergement des demandeurs d'asile, il est sûr que ça peut faire naître des suspicions de contrôle de ces étrangers. Et qu'eux-mêmes, s'ils savent qu'ils sont repérés, suspectés, contrôlés, peut-être que ça va les décourager à venir demander de l'asile.
Exact.
C'est un moyen indirect de leur dire « ne venez plus en France ». Autre point négatif, la réduction de 120 jours à 90 jours du délai que l'étranger a pour demander un droit d'asile. Ça veut dire que si vous restez ici plus de 90 jours, votre demande d'asile peut ne pas être acceptée. Si elle est acceptée, ce sera sous la procédure de demande accélérée. La procédure accélérée, pas la procédure normale.
Ouais.
Et là, ce n'est pas bon pour l'étranger qui n'aura pas droit à un hébergement et qui n'aura pas droit à une allocation. Autre problème que je suis malheureusement obligé de notifier, c'est la réduction du délai que l'étranger a pour former un recours devant la CNDA au cas où sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet.
Elle est de combien de temps?
Elle était de 30 jours.
Ouais.
Depuis le dimanche dernier, la loi qui a été adoptée l'a ramenée à moitié, à 15 jours.
À 15 jours.
Or, vous savez bien que quand on ne connaît pas les règles sur le droit d'asile, même des associations qui parfois connaissent approximativement quels sont les tenants et les aboutissants de la Convention de Genève, à fortiori un étranger, pour 15 jours, le temps de trouver des moyens de preuve. Parce que parfois, on dit qu'il y a des moyens de preuve, il y a un défaut de preuve. L'OFRA, en rejetant, va dire globalement que vous étiez un peu évasif. Votre récit est un peu approximatif, et générique et convenu. Donc, ça veut dire que pour le recours, l'étranger a intérêt à trouver des éléments de preuve pour corroborer ses dires, pour corroborer son récit. 15 jours s'avère quand même très insuffisant pour que l'étranger puisse faire
très
un recours qui ait la chance d'aboutir. Ça, c'est un autre problème. C'est le développement des audiences par vidéosurveillance. Ça veut dire que vidéoconférence, des audiences par vidéo à distance. Ça veut dire que maintenant, pour aller plus vite, comme il y a trop de monde, on va demander au juge d'étudier le recours à distance. Vous êtes devant un ordinateur, je vois voilà, ce que vous dites. Là, il y a l'aspect humain qui est le centre, le nœud névralgique de la demande d'asile a été enlevé.
Ouais.
Là, on parle à un ordinateur. Effectivement, ça peut permettre d'aller assez vite. Alors que déjà, les juges sont surchargés par rapport à ce travail qui demande beaucoup de considération, beaucoup d'attention, parce que c'est une question humaine qui est en jeu. C'est des gens, en général, qui ont de vrais problèmes. Ce n'est pas comme la masse des personnes qui ont quitté pour des raisons économiques.
Ouais.
On sait que des gens qui ont quitté la Syrie, ce n'est pas pour de leur propre chef. C'est des ingénieurs informatiques, c'est des gens qui ont boulot. Ils comptent retourner chez eux une fois que la tension qui existe chez eux et qui n'est pas de leur propre chef, parce que la communauté internationale a un rôle dans ce qui se passe en Syrie, ils quittent leur pays et on ne veut plus d'eux. Ça, c'est un problème. Pareil pour le Darfour, pareil pour d'autres zones de tension. Donc, ce problème-là est un problème à relever.
Alors, quelles sont les conséquences de la nouvelle loi sur le séjour des étrangers?
Rapidement, pour signifier que quand même il y a quelques points positifs par rapport à l'asile, c'est que l'éloignement des demandeurs d'asile venant de pays sûrs, certes, est facilité, mais néanmoins, cette notion maintenant est relativisée. Parce qu'avant, on considérait de facto que tel pays est sûr. Donc, ça veut dire qu'on part d'une présomption que vous ne pouvez pas avoir de problème, à part certaines questions comme l'homosexualité ou l'excision. Autre point positif, le titre de séjour qu'on donnait à des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée, mais pour qui on donnait une protection à titre subsidiaire, était de 1 an. Avec cette nouvelle loi, elle peut aller jusqu'à 4 ans. Ça, c'est un point positif qu'il faut souligner. Il y a aussi le renforcement de la protection des filles qui peuvent faire l'objet d'excision.
Oui.
Il ne suffit pas d'être excisé déjà, mais s'il y a un risque d'excision, ça peut donner droit à l'asile et il y a une protection renforcée. C'est un point important à souligner.
Ah, donc il y a des points positifs tout de même.
Il y a quelques points positifs, ça, ouais. Il fallait souligner. Maintenant, pour votre question concernant les conséquences de la nouvelle loi sur les droits des étrangers, il faut dire que cette loi, on l'a appelée asile et immigration, mais c'est plutôt asile et éloignement. Ça ne revient pas sur les dispositions de la loi de 2016 sur l'immigration, mais c'est plutôt pour éloigner les personnes. Donc, à ce titre, il faut souligner qu'il y a quelques points négatifs et quelques points positifs. Pour les points négatifs, pour les sans-papiers en rétention, avant, c'était 45 jours.
Ouais.
Le paradoxe, c'est qu'on a doublé ce délai de 4 à 90 jours.
D'accord.
On se rappelle, en 2011, c'était 32 jours. Quand on a voulu le faire à 45 jours, tout le monde a crié à la prison que c'est l'emprisonnement des étrangers. Maintenant, on l'a doublé. Ça veut dire que vraiment, ce dont on plaignait en 2011, ça ne cause plus un problème. Augmentation aussi du délai de la rétention pour contrôle, qui était de 16 heures, maintenant jusqu'à 24 heures pour retenir un étranger pour voir s'il a droit en titre de séjour à rester en France ou pas. Aussi, la rétention des mineurs étrangers avec leurs parents, ça c'est un problème de droit international. Un enfant qui n'a rien fait, du seul fait que ses parents n'ont pas de papier, même s'il est un bébé de 2 mois, on considère ce bébé délinquant, Et parce qu'il est en France, alors que le bébé n'a pas le choix. Ouais. Il peut pas, quand même, à deux mois, il ne peut pas marcher. Exact. Encore moins, il demande un titre de séjour. Ouais. Ça, c'est un vrai problème par rapport à la loi. Donc, quand même, je vais finir par une petite note d'espoir avec les points positifs que je peux quand même souligner par rapport à cette loi. C'est la possibilité d'accorder l'aide au retour pour les personnes qui sont en centre de rétention. Avant, ce n'était pas possible. Mais maintenant, si vous décidez de partir, même si vous êtes déjà en centre de rétention, on peut vous aider à retourner en vous payant le billet qui, certes, était déjà payé. Parce que quand on vous retourne, vous ne payez pas le billet. Vous partez manu militari, mais vous ne payez pas le billet. Mais maintenant, on peut vous aider quand même si vous décidez de partir avec un accompagnement qui peut être négocié avec l'OFI. Il y a aussi ce qu'on appelle la création de passeport santé pour les étrangers qui ont des problèmes de santé, mais qui ont des moyens. Ça veut dire que si vous avez des moyens pour vous soigner, vous pouvez venir ici avec ce qu'on appelle passeport santé. Si vous êtes pauvre, que vous êtes au Mali ou au Sénégal et que vous n'avez pas de moyens, ne comptez pas sur cette carte. Aussi, autre protection sur le droit de séjour des victimes de violences conjugales qui est renforcée et qui a déjà été renforcée en 2015. Ouais. Et en dernier lieu, si un immigré franchit, par exemple, une sans autorisation, ça, c'est même pas un point positif, parce qu'on peut dire que c'est un point négatif, parce que si on franchit sans autorisation une frontière européenne, ouais. Là, il y a une incrimination qui a été créée par la France. Ça veut dire que, quelque part, ne venez pas.
Alors, à l'UTEL, ça va être ma dernière question. Cette nouvelle loi doit-elle faire peur aux étrangers ?
Elle doit faire très peur aux étrangers. Par exemple, le dernier point que je viens de signifier, là, l'étranger jusqu'à un an de prison avec plus de 3 700 € d'amende du seul fait qu'il a franchi une frontière européenne. Ça, c'est un vrai problème. Le fait qu'il y a un délai de rétention qui est augmenté pour contrôler votre titre d'identité, votre titre de séjour, jusqu'à 24 heures, c'est un problème. Le fait que aussi le délai de rétention dans les centres de rétention administrative est de 90 jours, c'est un problème. Le fait que l'étranger n'ait que 15 jours pour former un recours, c'est un problème. Donc, dans la globalité, on ne peut pas dire que cette loi est une bonne loi. C'est une loi qui doit faire beaucoup peur aux étrangers. Et j'espère bien que, on doit l'espérer, le prochain gouvernement va abroger cette loi. Sinon, la France, il faut dire au revoir, je pense.
Voilà, le 22 avril dernier, la France a adopté une nouvelle loi sur l'immigration et l'asile. Malgré vents et marées agités à la fois par l'opposition de gauche, par la droite et même par plusieurs députés de la majorité gouvernementale, cette loi est également largement contestée par les acteurs associatifs qui défendent les étrangers en France. Le Droit et Nous vous propose donc une série de chroniques pour décortiquer cette nouvelle loi et expliquer aux auditeurs les changements qu'elle apporte sur le droit d'asile. Merci à l'UTAL.
Merci Phil.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliutal sur Africa numéro 1.